je vous parle, sont présents. Les malaïka, alayhim salam. Mais le plus important, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala évoque ces gens qui se regroupent, non pas pour un bien d'ici-bas, mais ils se regroupent pour les biens de l'au-delà, l'il-akhira. Ils se regroupent pour parler de Allah subhanahu wa ta'ala, pour parler de l'islam. D'autant plus que le thème général qui a été choisi par les frères et les sœurs pour cette année est un terme très important, at-tarbiya, l'éducation. Vous savez que le ministère de l'éducation nationale en France et dans d'autres pays fait partie, si ce n'est le ministère le plus important et qui demande le plus d'argent. Le ministère de l'éducation nationale. Pourquoi, à votre avis ? Tout simplement parce que l'éducation est importante. Donc ça, on l'a compris, et tous les thèmes qui ont été développés par les personnes qui m'ont précédé sont importants. Notre thème d'aujourd'hui, qui entre dans le thème général, est d'une extrême importance, comme l'a dit mon frère Abdelrahim. Éduquer son âme au quotidien. Et je le félicite d'avoir, bien entendu, décomposé ce mot, car nous savons, nous ont enseigné justement de définir les mots avant de faire un développement. On parle très souvent de « at-ta'rif al-lughawi », la définition linguistique, et après il parle de « at-ta'rif al-istilahi », la définition plutôt technique, juridique. Donc comprendre les mots, éduquer son âme au quotidien. Donc l'éducation, on sait ce que c'est, éduquer, élever vers le haut. On doit élever vers le haut, on doit purifier vers les nobles valeurs morales. Et tout ça c'est l'éducation, aller vers le haut. Son âme, on parlera de l'âme, inshallah ta'ala, an-nafs, au quotidien. On aurait pu s'arrêter uniquement à éduquer son âme. Mais il a fallu rajouter au quotidien, comme un quotidien, tous les jours. On a besoin d'éduquer son âme tous les jours, jusqu'à la mort. Personne ne pourra dire que, à un moment donné de ma vie, j'arrêterai d'éduquer mon âme. C'est bon, j'ai atteint un degré dans la foi qui me permet d'arrêter le travail. Non. Tant que le cœur bat, tu dois éduquer ton âme. Si tu veux aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Notre but ici-bas est de vivre le bonheur. As-sa'ad. J'allais dire, tout être humain recherche quelque part le bonheur. Demandez à l'extérieur de la mosquée, dans les rues, sur votre lieu de travail, mais qu'est-ce que tu cherches dans ta vie ? Je cherche le bonheur. Certains vivent un supposé bonheur. Nous, on sait que le bonheur véritable ne peut être que dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et dans son adoration. C'est le véritable bonheur. Lorsque le cœur est joyeux, c'est dans l'iman, c'est dans la foi. On est heureux et on vit dans ce bonheur parce que on recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rida Allah. Regardez les sahaba ridwanullah alayhim. Radiyallahu anhum wa radu anhu. On recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. On recherche l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On cherche à aimer Allah pour qu'il nous aime. Et vous savez que Dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, il nous donne la meilleure des choses qu'il a préparées pour nous. Fil akhira. Al-Jannah, le paradis. Objectif, hein, c'était une des interventions de notre professeur Abdullah ibn Mansour, hafidhahullah ta'ala, un des thèmes d'intervention, objectif 2 points, al-Firdaus. Notre objectif, c'est al-Firdaus. Car le prophète nous a enseigné de toujours demander la meilleure des choses. Donc demandons al-Firdaus, le plus haut degré du paradis, de l'Jannah. Donc on veut entrer au paradis. On veut voir Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que voir Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure des choses que l'on puisse avoir. An-nazaru ila wajhihi al-karim subhanahu wa ta'ala. Entrer au paradis, c'est très bien. Les belles choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparées aux gens au paradis, des choses que nul œil n'a vues, que nulle oreille n'a entendues, et qu'on ne pourrait même pas imaginer. Mais lorsque les habitants du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala leur enlèvera le voile, le hijab, et se manifestera Azza wa Jal par la façon qui lui est propre, subhana, les gens seront, j'allais dire, dans le bonheur absolu. Et ça doit être vraiment notre envie la plus profonde, notre souhait le plus intense. Et on doit l'invoquer, subhana, pour le voir. Et c'est ainsi que les compagnons, radiyallahu anhum, en se conformant aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, œuvraient au quotidien pour cet objectif. Al-Jannah, an-nadru ila wajhihi al-karim subhanahu wa ta'ala. Notre cheminement spirituel dans notre vie doit nous faire atteindre cet objectif. Vous voyez, on a un objectif qu'on a défini clairement. Pour atteindre cet objectif, il n'y a pas 50 000 voies. Moi, je ne connais qu'une seule voie. C'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréée. C'est la voie des prophètes et des messagers. Al-Anbiya wa al-Rusul. Allah Azza wa Jal les a envoyés pour nous faire atteindre le Jannah, pour avoir, obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment le dernier d'entre eux, Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc la voix des prophètes, quel est leur enseignement? Tous, sans exception, ils ont appelé à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les djinns, tous les êtres humains n'ont qu'un seul objectif qui est clairement tracé par Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Dhariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Ça, c'est la finalité. Notre travail ici-bas, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration est globale. Elle touche tous les éléments, tous les aspects de la vie. On n'est pas uniquement dans une adoration lorsqu'on se trouve en prière, lorsqu'on se trouve à la mosquée. Si ton intention est sincère, si tu accompagnes ton action avec ton cœur, tu le fais pour Allah, ton travail devient une ibad. Lorsque tu manges, ça devient une ibad. Lorsque tu dors, c'est une ibad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit même que le rapport sexuel dans le cadre d'un mariage est une ibad. Ça rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous faisons tout cela pour nous rapprocher d'Allah. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Tous les aspects de la vie. On adore Allah subhanahu wa ta'ala. On a des obstacles, des freins dans ce chemin qui doit nous conduire vers Al-Jannah. On peut les résumer en quatre points. Les quatre obstacles majeurs, les quatre freins, c'est un barrage. Tu es dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux Al-Jannah, tu as des obstacles. Le premier obstacle, et pas des moindres, Iblis, alayhi la'natullah, Al-Shaytan, Satan, le diable. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iblis son défi c'est de nous détourner de la voie de Jannah, du paradis, et il usera de tous les moyens, il ne se fatiguera pas jour et nuit pour nous détourner de Jannah. Tu vas aller au paradis? Moi, je veux pour toi An-Nar, l'enfer. Allah nous a dit qu'il est un ennemi déclaré pour nous. Adou. Allah nous dit, fattakhidouhu adouwa. Prenez-le donc comme un ennemi déclaré, comme tel. Donc on doit avoir ça en tête. On doit connaître ses ruses. Il est très rusé. Il a de l'expérience dans ce domaine. Il a réussi à détourner un certain nombre d'êtres humains et même de croyants. Ceux qui étaient dans la mosquée se sont retrouvés un jour à l'extérieur de la mosquée en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Iblis a réussi. Donc ça, c'est le premier obstacle, le premier frein. Le deuxième obstacle, c'est Ad-Dunya. Cette vie d'ici-bas, cette vie matérielle. On doit vivre, bien entendu. Et on ne doit pas oublier notre part d'ici-bas. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Certains utilise ce verset pour dire, mais tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Il profite de ce verset pour prendre tout ce que dunya contient. En oubliant l'akhirah. Mais le sens du verset, c'est وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا لِلْأَخِرَةِ. N'oublie pas ta part d'ici-bas, mais pour l'au-delà. Utilise hadith dunya, vie, travail. Tout est licite tant que ça reste dans le cadre islamique, dans le cadre de la sharia de l'islam. Mais le licite est grand, n'est pas restreint. Mais ad-dunya, lorsqu'elle est dans le cœur, ça devient dangereux, ça devient un obstacle. Et un des compagnons a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui indiquer une chose par laquelle il obtiendra l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour des gens. Il lui a dit, Ya Rasulallah, adullani ala shay'in idha fa'altuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Indique-moi quelque chose qui pourrait me procurer l'amour d'Allah et l'amour des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Vis le zuhd, sois ascète. Ne t'attache pas à cette dunya. Allah azza wa jal t'aimera. Izhad fi ma inda an-nas yuhibbuk an-nas. Et ne t'attache pas, ne suis pas ce que les gens ont, les gens t'aimeront. Si cette dunya valait l'aile d'un moustique, Al-Kafir, Allah Azza wa Jal, ne lui aurait pas permis de boire. Il n'aurait pas permis. Lakin, ad-dunya, c'est un lieu de passage. Notre résidence principale se trouve dans l'akhira. Ici, c'est juste une résidence de passage, comme lorsque vous partez en vacances. Vous louez une maison, un appartement ou autre, mais tôt ou tard, vous devrez revenir chez vous, à votre résidence principale. La résidence principale est dans l'au-delà. On travaille pour avoir Al-Jannah, une belle résidence principale. Qu'Allah nous préserve de Nar. Donc, Al-Shaytan, Al-Dunya, juste quelques flashs, Al-Hawa, les passions. Les passions sont un obstacle. Ara'ayta man ittakhadha ilahu hawa. N'as-tu pas vu celui qui a pris comme divinité ses passions? Suivre ses passions. Hein, lorsqu'on suit ses passions, on ne va pas vers le Jannah. On va vers l'autre chemin. Et le quatrième, et c'est celui qui nous intéresse ce soir, c'est An-Nafs. L'âme. L'âme, on trouve généralement deux termes en arabe. An-Nafs et un autre terme, ar-ruh. An-nafs et ar-ruh. Même si dans la traduction, an-nafs, c'est plutôt l'âme, ar-ruh, l'esprit. Mais les savants de l'islam, justement, ont essayé de voir s'il y avait une différence entre an-nafs et ar-ruh. Certains d'entre eux ont distingué nafs d'ar-ruh. D'autres disent que an-nafs et ar-ruh, c'est la même chose. L'imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi dit que on parle de an-nafs lorsqu'elle habite le corps. Lorsqu'elle habite le corps. An-nafs al-lawwama, elle habite le corps. Lorsqu'elle quitte le corps, il parle de ar-ruh. Yas'alunaka 'ani ar-ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Il te questionne au sujet de ar-ruh, de l'âme. Ça, c'est le domaine privé d'Allah Azza wa Jal. Wa ma utitu min al-ilm illa qalila. Vous n'avez eu que peu de savoir, peu de connaissances. Donc, savoir et comprendre ce qu'est ar-ruh et an-nafs, c'est quelque chose de difficile. Hein? Où se trouve le nefs, où se trouve le ruh, yani, elle habite mon corps, mais c'est quelque chose de très très difficile. On peut dire que un nefs, c'est quelque chose qui m'habite au fond de moi-même et que je dois éduquer. Et pourquoi on parle d'éducation, de at-tarbiyah? Pourquoi éduquer son âme? On parle d'éducation des enfants. On parle d'éducation de ci et de cela. Pourquoi parler d'éducation de l'âme? Tarbiyatun nafs. Pourquoi elle a besoin d'être éduquée? La réponse se trouve dans le Coran. Allah dit dans Sourate Yusuf, cette belle sourate, Sourate Yusuf, qu'on doit méditer. Allah dit: Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahim rabbi. L'âme, an-nafs, ammara, elle est incitatrice au mal, bis-su, illa ma rahim rabbi. Illa ma rahim rabbi, rabbi, mon Seigneur va m'aider pour contrecarrer cette incitation au mal. On a besoin d'Allah, hein, et vous voyez le verset nous dit tout de suite que si tu veux éduquer ton âme, sache que tu as besoin de ton Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, de la miséricorde de ton Créateur, Azza wa Jal. Donc ça c'est le verset 53 de Sourate Yusuf alayhi salam. Donc le but de la purification de l'âme est de parvenir à ce stade ultime vers lequel on va arriver, à cette âme qui est apaisée, al-mutma'inna. Et donc c'est un travail qui est difficile, c'est un travail qui est dur. Ce n'est pas un travail de quelques secondes, de quelques minutes, de quelques jours. Ce n'est même pas un travail d'un seul mois de Ramadan. Le mois du Ramadan est une des périodes qui participe à cette éducation de l'âme. Et c'est un des meilleurs moyens pour éduquer son âme. Hein, on la prive de beaucoup de choses, mais c'est pour notre bonheur. Lorsqu'on traite de ce thème concernant l'âme, on utilise plusieurs termes. Tarbiyatun nafs, l'éducation de l'âme, mais on peut également parler de tazkiyatun nafs. Tazkiyah, la purification de l'âme. Hein? Le titre aurait pu être la purification de l'âme au quotidien. Et c'est de l'éducation aussi. Ça peut être mujahadatu nafs. Le mujahada. Et dans le mujahada, il y a un jihad. Le jihad, qu'on traduit par la guerre sainte, qui est une mauvaise traduction, bien entendu, et qui ne reflète pas le sens véritable, le sens voulu par Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce terme, comporte 14 degrés. Al-jihad. 14 sortes de jihad. Dans ces 14 degrés, dans ces 14 catégories de jihad, 5 concernent jihad al-nafs. Jihad shaitan, 2. Alors qu'il y a 5 pour al-nafs. Ça montre bien que c'est le plus important. Il demande, j'allais dire, encore plus d'efforts que le jihad que l'on peut faire légitimement avec l'arme. Là, tu fais le jihad à l'extérieur, tu combats un ennemi, là, tu fais un jihad avec toi-même. Et ce n'est pas pour rien que les pieux prédécesseurs disaient, en revenant des batailles, on est revenu du petit jihad, min al-jihad il-asrar, l'asrar et l'al-jihad il-akbar. On est venu du petit jihad vers le grand jihad, le jihad que je fais sur moi. Self-control, en anglais. Se contrôler soi-même, à l'intérieur. Donc, tarbiya, tazkiya, le mujahada, le muhasaba, l'examen de conscience. Tu hasibu nafsak. Tu demandes des comptes à ton âme. Dans le texte coranique et dans la tradition prophétique, il nous est demandé de purifier nos âmes et de les éduquer. Ce terme de nafs revient plusieurs fois dans le Coran. On ne peut pas s'arrêter sur les nombreuses fois où Allah subhanahu wa ta'ala cite nafs dans le Coran, mais il y a quelques passages qu'on doit citer qui sont importants. Allah azza wa jalla dit dans sourate Al-A'la, Sabbih isma rabbika Al-A'la, قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى réussira qui من تزكى celui qui se purifiera qui purifiera son âme aura la réussite ici-bas et dans l'au-delà في الدنيا وفي الآخرة dans une autre sourate un peu plus loin dans Surat Al-Shams, Allah Azza wa Jal nous dit wa nafsin wa ma sawa. Surat Al-Shams, wa Al-Shams wa Duhaha ila akhiri. Wa nafsin wa ma sawaha. Et l'âme, qui l'a façonné? Harmonieusement façonné. Allah Azza wa Jal. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Il lui a insufflé Fujuraha, son immoralité, wa taqwaha, et sa piété. Les deux chemins. Vous voyez, on a toujours le bien et le mal. Al-janna wa al-nar. Fa alhamaha, fujuraha, wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Réussira donc celui qui la purifie. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا et est perdu certes celui qui la court. قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا si tu laisses ton âme sans l'éduquer, sans la purifier, sans lui demander des comptes, elle te mènera à la perte. Elle te mènera vers النار والعياذ بالله. C'est dire que cet exercice est important. C'est un exercice spirituel. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses nombreuses invocations, il disait Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ati nafsi taqwaha فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Le prophète Hassan partait du verset et demandait à Allah Azza wa Jal, Ya Allah, al-nafs, il y a son immoralité, il y a sa piété qui mène vers le Jannah, ou Allah donne-moi sa piété. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Et purifie-la, tu es le meilleur qui puisse la purifier. Anta waliyuha wa mawlaha, tu es son maître et son seigneur. Donc ça, c'est une invocation qu'on doit dire, qu'on doit apprendre. Hein? Parce que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui va nous aider pour contrer le mal de cette âme. Et d'ailleurs, les prophètes et les messagers, alayhim salam, ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour éduquer les âmes. Allah dit dans Surat Ali Imran au verset 164 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَة. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Comprendre que cette âme est incitatrice au mal. On doit l'éduquer, on doit la purifier. On se préoccupe beaucoup de l'extérieur, de nos corps. Et c'est bien de se préoccuper de son corps, de l'entretenir, de lui donner à manger. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas se préoccuper de l'intérieur. Le poète arabe disait « Ya khadim al-jismi, kam tas'a li khidmatihi, at'abta nafsaka fi ma fihi khusranu, aqbil ala nafsi, wastakmil fada'ilaha, fa anta bin nafsi, la bil jismi insanu. » Une très belle poésie. « Ya khadim al-jismi, al-jism, c'est le corps. Ô toi, qui travaille le corps, qui ne t'attache qu'à l'apparence, qu'à l'extérieur. Kam tas'a li khidmatihi. Tu travailles et tu travailles, tu passes beaucoup de temps. At'abta nafsaka fi ma fihi khusran. Tu te fatigues, tu dépenses ton temps et ton énergie vers ce qui causera peut-être ta perte, al-khusran. نعوذ بالله من الخسران أتعبت نفسك فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها. Reviens, penche-toi plutôt vers ton âme. Le remède se trouve dans l'éducation de l'âme. أقبل على النفس واستكمل فضائلها. Tu dois rechercher ces nobles vertus. Tu dois l'élever. فَأَنْتَ بِالنَّفْسِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانُ. On est caractérisé comme être humain lorsque l'âme habite le corps. Vous voyez, lorsque l'âme est dans mon corps, je suis un être humain qui peut marcher. Mais lorsque l'âme quitte le corps peut être enterré. Donc, cette poésie yani, est très importante pour nous montrer justement que cet exercice sur l'âme est très important. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et il est expert dans ce domaine. À chaque fois qu'on parle de An-Nafs et de Al-Muhasaba, on parle beaucoup de Omar ibn Khattab. Wa ma adraka ma Omar. Omar a écrit à Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, alors que Omar était calife. Il lui donne des recommandations. Tu dois faire ça, ça et ça. Fais attention à ça et ça et ça. Et à la fin, il lui dit: wa fi nihayati ma katabahu Omar ibn Khattab ila Sa'd ibn Abi Waqqas, ainsi qu'à l'ensemble de l'armée, is'alu Allah al-auna ala anfusikum. Il lui dit: demandez à Allah l'aide contre quoi? Ala anfusikum, contre vous-même, contre votre nefs. Is'alu Allah al-auna ala anfusikum kama tas'alunahu an-nasr ala aduwikum. Vous voyez, demandez à Allah Azza wa Jalla l'aide contre votre nefs comme vous lui demandez la victoire contre vos ennemis, contre votre ennemi. On demande à l'aide Allah Azza wa Jalla lorsqu'on est dans une situation de faiblesse, lorsque l'ennemi l'emporte, et Allah aide-nous. Ce travail que tu fais lorsque tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jalla contre l'ennemi pour avoir la victoire, tu dois faire autant, si ce n'est plus, l'invoquer subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'aide à dompter l'âme, à maîtriser cette âme, à l'éduquer, à vraiment la rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, dans Sourate Al-Ankabut, au verset 69, Allah Azza wa Jalla nous dit: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Le jihad, un jihad, un effort important. Ceux qui font cet effort pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, on les guide vers le droit chemin. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, on les guide vers le droit chemin qui les mènera vers ce qu'on a défini dès le début, l'objectif, al-Jannah. Allah est avec al-Muhsinin, ceux qui font le bien, les bienfaisants. Si on ne fait pas ce travail ici-bas, si on n'éduque pas notre âme, si on ne la maîtrise pas, si on ne la purifie pas, viendra un jour où on regrettera. Le regret. Al-Nadam. Allah dit subhanahu, An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. On se mordra les doigts ce jour-là. On dira à cette âme, Farrat, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Les droits d'Allah Azza wa Jal, fi jambillah, aux côtés d'Allah, littéralement. Mais ça veut dire, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Allah m'a demandé de faire, je ne l'ai pas fait comme il se doit. J'ai été négligent. Mon âme a pris le dessus. A pris le dessus sur moi. Hein. C'est un jihad. Avec moi-même. Chacun d'entre nous, très certainement, connaît ce jihad. Connaît le fait que c'est un exercice qui demande, bien entendu, une connaissance. Connaître la réalité de l'âme. Connaître les moyens qui nous permettent de l'éduquer, de la maîtriser. Pour aller justement vers le deuxième degré. Cette âme qui est incitatrice au mal, lorsque je fais ce travail, je tombe dans le péché, là, cette âme va commencer à se blâmer. Elle va commencer à se blâmer. Et Allah Azza wa Jalla nous cite cela. Cette deuxième catégorie de nefs, ce deuxième degré, dans une sourate très importante. Et ce n'est pas pour rien qu'il la cite dans cette sourate. Sourate Al-Qiyamah, la résurrection. Allah commence, Bismillahir Rahmanir Rahim, La uqsimu bi yawmi al-qiyamah, wa la uqsimu bin nafsi al-lawwamah. Non, je jure. Par quoi ? بيوم القيامة. Allah jure par le jour de la résurrection. Et Allah est en droit de jurer par ce qu'il veut. Parce qu'il est Allah. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Et il jure, subhanahu wa ta'ala, par cette âme qui se blâme. Et lorsque Allah jure par quelque chose, c'est que cette chose est importante. L'âme qui se blâme est importante. Il est nécessaire de blâmer son âme. Il est nécessaire de critiquer son âme. Vous voyez, dans beaucoup de passages du Coran, on nous renvoie toujours à l'akhirah, au jour de la résurrection. Lorsqu'on sera présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que se rappeler l'au-delà, se rappeler l'akhirah, et un des meilleurs moyens, écoutez, un des meilleurs moyens pour éduquer son âme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah. La uqsimu bi yawmi al-qiyamah wa la uqsimu bi nafsi al-lawwamah. Si tu veux que ton âme se blâme, On commet tous des péchés. Les enfants d'Adam, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, commettent des péchés. Mais il faut se rappeler qu'Allah nous observe. Il faut se rappeler qu'on doit se demander, on doit demander des comptes à soi-même concernant les péchés que l'on a commis. Et ça, c'est un exercice que faisaient les compagnons radiallahu ta'ala anhum. Car beaucoup de passages de Al-Qur'an Al-Karim rapportent cela, comme vous l'avez dans ce verset de Surat Al-Hashr, le verset 18, très important, où Allah s'adresse aux croyants en particulier. Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui portez la foi, ô vous les croyants. C'est le croyant qui est concerné. Lorsqu'on parle de cette âme, de l'éduquer, de la maîtriser, de la purifier, certains pourraient penser qu'ils ne sont pas concernés parce qu'ils viennent à la mosquée, parce qu'ils prient salat sobh à la mosquée, parce qu'ils jeûnent le mois du ramadan, parce que. Non, Allah te dit, « Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui portez la foi, ittaqullah, craignez Allah. » Et que chaque âme regarde, qu'est-ce qu'elle a préparé pour demain, qu'est-ce qu'elle a préparé pour yawm al-qiyama, lorsqu'on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Avant que tu ne fasses un péché, rappelle-toi que Allah azza wa jal te questionnera dessus. Qu'il soit petit ou grand. Qu'il soit petit ou grand, tu devras rendre des comptes sur ta désobéissance, sur tes manquements, sur tes négligences. Donc blâme ton âme. Il y a un moment de la journée que tu dois consacrer à cet examen de conscience, al-muhasaba. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, disait Omar. Radiyallahu anhu. Wazinu a'malakum. Zinu a'malakum. Demandez des comptes à vous-même avant que on vous demande des comptes. Parce que si vous demandez des comptes à vous-même, à vos âmes ici-bas, vous allez vous corriger pour vous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui a demandé des comptes à soi-même ici-bas, Allah lui facilitera le jugement yawm al-qiyama. Celui qui a laissé son âme libre, faire ce qu'elle veut, le hisab sera comment ? Sera asir, sera très difficile. Les uns auront un jugement facile, yassir, d'autres difficile. Donc vous voyez que cet exercice est très important et le rôle de la purification de l'âme et le succès dans l'au-delà. وَمَنْ يُقَّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Il se peut que les gens te montrent du doigt. Il se peut que les gens parle de toi en bien. Mais cela ne doit pas te faire oublier le fait que tu es le mieux placé à connaître ta réalité, à connaître ce que tu fais, à connaître ton rapport avec Allah Azza wa Jal, ton rapport avec les gens et ton rapport avec toi-même. Il serait grave que les gens te fassent des éloges concernant ta piété, concernant ton obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité, l'intérieur est loin d'être avec Allah. Cela me rappelle notre grand cher, Cheikh Yusuf al-Qardawi, hafidhahullah ta'ala, dans un des congrès, les savants qui l'ont précédé ont parlé de lui en bien. Le Cheikh, il a apporté ça et ça et ça, et mashallah, un homme pieux. dans l'introduction de ses propos, il leur a dit tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de me dire ne me fera pas oublier la réalité de mon âme. Toutes les éloges, tout le bien que vous venez de dire ne me fera pas oublier la réalité de ce que je suis. Je suis le mieux placé pour connaître ma proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un enseignement que l'on doit prendre bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, parmi les invocations que l'on doit dire lorsque les gens nous font les éloges et qu'on craint justement de n'être pas à la hauteur, on dit Allahumma ja'alni khayran mimma yadhunnun. Oh Allah, fais que je sois meilleur de ce qu'il pense, de ce qu'il voit en moi. Wa la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas justement nous punir pour ceux qui ne savent pas et de nous pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith, qala alayhi salatu wa sallam fil hadith sahih alladhi rawahu l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. Le prophète dit عليه الصلاة والسلام, l'intelligent, الكيس, qui est l'intelligent? C'est celui qui a la meilleure note, qui a 20 sur 20, qui est bon en maths, en physique et les autres matières? Non. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. L'intelligent, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui dompte son âme et agit pour l'au-delà. Regardez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comparez-la à la parole d'Allah azza wa jal. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wa yaqulu jalla wa 'ala لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Un parallèle entre cette âme qui est domptée et l'akhira, le jour dernier. Donc l'intelligent est celui qui dompte son âme et agit pour l'au-delà, et le stupide entre guillemets est celui qui laisse son âme suivre ses passions et s'accrocher à de faux espoirs. وتمنى على الله الأماني. الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه disait: le croyant, il est surveillant de son âme. Al-mu'min, qui est le véritable croyant? C'est celui qui surveille son âme. Il lui demande des comptes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense, il sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera des comptes. Donc à chaque fois qu'il fait quelque chose, il surveille son âme. Et je vous disais que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, dans ce domaine, a excellé. Omar, vous savez qui il était, Omar, dans la jahiliya, dans l'ignorance. C'était quelqu'un dont le cœur était dur. Il suffit qu'il entende la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans surat Taha, pour que son cœur s'illumine et pour que cet exercice commence, l'exercice spirituel, cette éducation, cette tarbiya, cette tazkiya, cette muhasaba, il l'a travaillé au quotidien, tout le temps. Et il a tellement travaillé qu'il donne un conseil, il dit, « Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. » C'est difficile, mais faites-le. Vous devez prendre des moments, notamment en fin de journée, pour faire un bilan de la journée, pour mieux préparer la journée qui suit. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rapporte que lorsque Omar a succédé à Abu Bakr as-Siddiq dans le califat, il l'a vu tout seul, hein, derrière un mur. Omar s'était isolé. Il commençait à parler à soi-même. Il commençait à parler à soi-même. Alors qu'il est Amir al-Mu'minin. Il a dit, qala Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. فسمعته أي سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بيني وبينه جدار alors qu'il y avait entre lui hein, entre Anas ibn Malik et Omar un mur يا أمير المؤمنين et Omar parlait à soi-même au prince des croyants au أمير المؤمنين c'est un titre qui est vraiment important يا أمير المؤمنين بخ بخ بخين بخين والله لا تتقين الله أو لا يعذبنك. Il parlait à soi-même, il a dit: Ô prince des croyants, crains Allah ou il va te punir. Imaginez Omar radiallahu anhu. Omar qui atteint un degré important dans la foi, succédé à Abu Bakr et le voir. Pensez à la responsabilité qu'il a devant Allah Azza wa Jal et auprès des gens. Il dit au prince des croyants. En utilisant volontairement ce titre, c'est pas parce que tu es prince des croyants que tu ne dois pas demander des comptes à ton âme. Ce n'est pas parce que tu es prince des croyants que tu seras préservé du châtiment si tu es dans la désobéissance. Et si tu recherches la colère d'Allah Azza wa Jal, crains Allah, at-taqwa. Ça, c'est le remède. La crainte d'Allah Azza wa Jal. Et les savants nous ont défini, nous ont expliqué ce qu'est cette crainte. Craindre Allah peut être résumé en disant que c'est être dans l'obéissance à ta'a. Et s'éloigner de la désobéissance à la Marseillaise. Donc, vous voyez que c'est un exercice important justement pour aller vers cette âme, hein, cette troisième catégorie, mais je pense qu'on on verra, Inch'Allah, on reprendra après la prière, si vous voulez bien, pour parler de cette âme qui a fait cet exercice spirituel et qui va être apaisée. « Minan nafsi al-ammara bissou » إلى النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة. Vous voyez dans le Coran, subhanallah, hein, dans sourate Yusuf, Allah parle de النفس الأمارة بالسوء, celle qui appelle, qui est incitatrice au mal. Dans sourate Al-Qiyamah, l'âme qui se blâme. Et à la fin du Coran, dans sourate Al-Fajr, l'aube, النفس المطمئنة. C'est ce que l'on verra, inshallah ta'ala, après la prière.
Donc nous concluons inshallah ta'ala autour de ce thème important qu'on ne pourrait bien entendu terminer tellement il est grand, important, car c'est un travail au quotidien. Concernant al-muhasaba, l'imam al-Hassan al-Basri rahmatullahi alayh, ce grand ascète, disait: إن العبد لا يزال بخير ما كان له وعيد من نفسه وكانت المحاسبة من همته.
Une parole riche. Il dit que le serviteur, al-abd, la yazalu bi khayrin, il sera dans le bien tant qu'il y aura quelque chose au fond de lui-même qui l'exhortera. Wa'id, hein, min nafsihi, lorsqu'il aura une exhortation interne. Lorsqu'il fera son examen de conscience et demandera des comptes, comme il le dit dans la suite, wa kanat al-muhasaba, hein, donc l'examen de conscience, le fait de demander des comptes, min himmati, ça devient une de ses plus grandes préoccupations. Et Maimoun ibn Mahran, un autre pieux, disait que on doit considérer l'âme, un nefs, comme cet associé qui est,
n'est pas une personne de confiance, hein, un associé, mais on ne lui fait pas trop confiance. Si tu ne fais pas le bilan avec lui, hein, tu fais un compte, il part avec ton argent. N'est-ce pas ? Hein, quelqu'un dont tu n'as pas confiance, mais malgré tout, c'est ton associé. Si au bout de l'année, vous ne faites pas les comptes, il se peut qu'il part avec ton argent. Avec l'âme, si tu ne fais pas les comptes, si tu ne lui demandes pas des comptes, elle partira pas avec de l'argent. Elle partira avec tes hasanats. Elle partira avec le bonheur, la sa'ada. Elle ne t'amènera pas vers tariq al-jannah. Parmi ceux qui ont excellé dans ce domaine, bien entendu, c'est as-sahaba, ridwanullahi alayhim, en se conformant à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous rappelle juste un récit que vous connaissez très certainement pour vous montrer leur souci dans cet exercice spirituel. Hanzala radiyallahu anhu, ce compagnon côtoyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au quotidien. Et un jour, hein, alors qu'il était loin du prophète alayhi salatu wa sallam, il a douté. Il a vu que sa foi faiblissait. Et il l'a pris comme une sorte d'hypocrisie, en disant nafaqa Hanzala. Hanzala est en quelque sorte hypocrite, est tombé dans l'hypocrisie. Avec le prophète, sa foi augmente. Lorsqu'il ne voit plus le prophète alayhi salatu wassalam, la foi baisse. Il est parti s'en plaindre à qui? Au meilleur compagnon, radiyallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq. Vous voyez, c'est parce qu'il y avait quelque chose au fond de lui-même qui lui demandait, qui lui faisait voir que la foi faiblissait. Donc, auprès de Abu Bakr as-Siddiq, il raconta ce qui lui était arrivé, hein, sa situation, l'état de son cœur, l'état de son âme. Et Abu Bakr de répondre, mais moi aussi. Lorsqu'on est avec le prophète, la foi est au top. Lorsqu'on revient à nos occupations, la foi faiblit. Ils sont partis tous les deux voir le médecin, At-Tabib. Le médecin des cœurs. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Auprès du prophète alayhi salatu wa sallam, ils lui ont raconté ce qui était passé, hein, leur état. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait que c'était en quelque sorte normal, hein, que la foi monte et diminue, hein, dans une certaine mesure, bien entendu. Hein, des moments lorsqu'on est là à la mosquée, notre foi augmente. La foi augmente bitta'a, hein, avec l'obéissance à Allah. La foi diminue bil-ma'siyah, avec la désobéissance. Donc il est clair que lorsqu'on est dans un environnement, et ça c'est important, lorsqu'on est dans un environnement qui nous rappelle Allah, qui nous rappelle Muhammad alayhi salatu wassalam, qui nous rappelle la foi, telle que la mosquée, telle que pour les compagnons la vue et la proximité avec le prophète sallallahu alayhi wassalam, la foi ne peut qu'augmenter. Il est clair que lorsque nous retournons chez nous, avec les difficultés, avec les épreuves, avec les tentations par-ci et par-là, avec cette dunya, la foi n'est pas la même, elle diminue. Mais il faut chercher toujours à aller vers le haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, en quelque sorte, le croyant, il est comme ça, il est dans cet état. Hein? Des fois, il a un état où il oublie. Il doit être rappelé. Hein? On doit le rappeler. Dhikr. Fa inna dhikra. Le rappel est utile à qui? Aux croyants. Donc on a besoin d'être rappelé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, si vous restez dans cet état-là, les anges
descendrez pour vous saluer. Fit turuqat. Lakin al-mu'min sa'a fa sa'a. Il y a des situations. Ça, c'est le point de départ parce que Hamdallah a fait un examen de conscience, a travaillé. Et donc, c'est ce qu'il nous est demandé de faire pour justement atteindre, comme je disais avant la prière, d'atteindre ce degré de an-nafs al-mutma'inna. هي التي تحب الخير والحسنات. C'est celle, cette âme apaisée, c'est celle qui aime le bien et qui aime les bonnes actions et qui déteste. On appelle le al-bourd. Elle déteste quoi? الشر والسيئات. Le mal et les mauvaises actions. وتكره ذلك. Et donc cette âme est citée par Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Fajr. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna. Vous voyez comment elle est appelée? Ya ayyatuha. Ya ayyatuha. Ô toi l'âme apaisée. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Regardez l'objectif qu'on s'est fixé au début. Al-jannah. Le paradis. L'âme apaisée. L'âme qui s'éloigne du mal et des mauvaises actions et des péchés, et qui se rapproche du bien et des bonnes actions. Afwan, des bonnes actions, elle se rapproche automatiquement de l'Jannah. Pourquoi? Parce qu'elle est apaisée, parce qu'elle est prête à entrer au paradis. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Donc ça, c'est la récompense quand les gens, les personnes, il y en a qui font ce travail difficile, certes difficile, mais important, hein, pour s'élever, pour s'éduquer, pour se purifier. Alors, il y a bien entendu des moyens dont pour arriver à cette éducation de l'âme. Hein, je vous cite juste quelques éléments que je n'aurai pas le temps de développer. Hein, les moyens du cheminement spirituel vers Allah. Premièrement, c'est la sincérité, l'ikhlas. Hein? On doit être sincère, on doit demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne doit faire cela que pour lui, azza wa jal. Ensuite, on doit se conformer aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, on doit persévérer et on doit être constant dans l'effort. Persévérer, as-sabr, hein, parce que ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin où il y aura forcément des barrages. Il y aura les obstacles qu'on a cités au début. Iblis, Dunya, Al-Hawa. Et Al-Nafs va essayer de tendre vers ces obstacles, en étant elle-même un obstacle par essence. Donc on doit persévérer, on doit patienter, on doit continuer dans l'effort constamment, tous les jours. Et quatrième élément, c'est la détermination et l'ambition. On doit être déterminé, on doit être ambitieux, on doit vouloir le paradis. Les provisions du cheminement, al-ilm, la science, le savoir, et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car avec l'évocation d'Allah, bidhikrillah, on a l'apaisement du cœur. Ala bidhikrillahi tatma'innu al-qulub. Le cœur s'apaise, le cœur devient saint. Ici, le cœur est apaisé, c'est parce qu'il y a eu un examen de conscience, il y a eu un travail spirituel pour contrôler, pour maîtriser l'âme. Les étapes du cheminement, hein, dans ce travail, hein, global, hein, c'est at-tawba, le repentir, et qui nous accompagne tout le temps. Le respect de l'observation des obligations, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, les prières salawat. Et prier tel que l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prier avec son corps et son cœur. Al-qalb. Et malheureusement, aujourd'hui, on tombe beaucoup dans l'apparence, dans l'extérieur. On s'attache à l'extérieur, on oublie le fondamental, le travail intérieur. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, c'est extérieurement et intérieurement. Et ce travail intérieur nous aide bien entendu dans cet exercice spirituel. Après l'obligatoire, le surrogatoire, hein, que l'on fait,
s'imprégner aussi des quatre facteurs favorisant le cheminement, hein, la bonne fréquentation, hein, telle que on la retrouve dans la mosquée, la maîtrise de la langue, maîtriser sa langue, la bonne gestion de son réveil, de son sommeil. Hein, tout ça, c'est des éléments qui vont bien entendu favoriser notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala pour atteindre Al-Jannah. Et tout, dans tout cela, bien entendu, il y a un développement, ça pourrait faire l'objet d'une conférence, la bonne fréquentation, la maîtrise de la langue, elle est saine, car le professeur Hassam dit que c'est, bien entendu, une des choses avec le sexe qui font entrer le plus en enfer, wa la yad billah. Maîtriser sa langue, c'est un travail difficile, mais important. La bonne gestion de son réveil et de son sommeil. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des recommandations importantes dans ce domaine-là. Hein, le réveil avec salat subh à l'heure. Hein, dormir tôt, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il est répréhensible, voire interdit, selon certains savants. Mais globalement, c'est répréhensible et détestable de dormir avant la dernière prière et de discuter après. Parce que tu ne pourras pas bien démarrer ta journée le lendemain, notamment te réveiller à l'heure pour salat subh. Hein, donc c'est détestable dans le sens où, si c'est utile, hein, comme lorsque on fait du dhikr, ou lorsqu'on fait du qiyam, ou lorsqu'on fait un rappel, ou c'est pour une nécessité de la vie, alhamdulillah, c'est autorisé. La bonne gestion de sa faim, de son appétit, c'est également une arme importante pour ce travail spirituel. Vous connaissez les mérites du jeûne et l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour multiplier les jeûnes surrogatoires. Et bien entendu, cela doit être accompagné, hein, par la phase ultime de purification, de tazkiya de l'âme. Hein. C'est les éléments qu'on a cités avant permettent de favoriser cela. Donc pour ne pas prendre trop de votre temps, Yanni, je vais m'arrêter là, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et je pense qu'on va prendre quelques questions s'il y en a. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa al-mullah. Barakallahu fik, Abdul Wahab, pour cette intervention très importante. Vous l'avez compris, vous l'avez noté. Bien sûr, cette conférence a pour objectif de nous montrer en quelque sorte les différentes étapes, mais vous savez très bien que c'est l'affaire de tout un programme que chacun ou chacune d'entre nous doit doit s'efforcer d'accomplir, inchallah, au quotidien. Alors bien sûr, chacun a son rythme, il n'est pas question d'aller plus vite que la musique, comme on dit, mais bien sûr, chacun, en écoutant, vous connaissez tous mieux vous-même que n'importe quel d'entre nous, d'accord ? Donc c'est important que vous teniez compte de cela. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, sans vouloir prolonger la conférence très intéressante du frère, c'est juste pour mettre en garde quand même, parce que c'est des sujets toujours délicats. Pour ça, je remercie Abdul Wahab, il a fait beaucoup d'efforts, c'était synthétique, construit très bien. Donc barakallahu fi. Mais sachez une chose, que il faut tout d'abord être conscient et le vouloir, c'est très important. Combien d'entre nous, combien de musulmans, musulmanes nous rencontrons tous les jours qui ne sont même pas conscients qu'il y a une voie à mener, à diriger, à suivre dans ce domaine-là. Donc c'est très important déjà d'être conscient qu'il y a effectivement un cheminement, qu'il n'est pas question de rester les bras croisés ou de se contenter à la rigueur de venir prier ou de prier simplement avec que l'aspect extérieur, comme l'a souligné très bien Abdul Wahab. Il y a un aspect intérieur et il faut en être conscient et il faut également le vouloir. Donc ça, ce sont deux aspects très importants dans ce cheminement qui doit nous mener, je le rappelle, hein, on n'est pas là pour embêter qui que ce soit, mais c'est pour bien nous mener vers le bonheur, comme l'a dit tout à l'heure Abdul Wahab, vers le paradis, inshallah ta'ala. Et le paradis a un prix, et ce prix, c'est l'effort constant, constamment être dans l'effort de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Combien dans la vie on est plus dans le rafla, dans l'indifférence, l'inconscience, que vraiment dans le rappel de tout cela. Donc c'est important, et cette conférence se veut vraiment une voie que l'on doit suivre avec les précieux conseils de Abdul Wahab. Mais sachez qu'il est important que chacun et chacune d'entre nous prenne la mesure de tout cela et se dise comment je vais pouvoir mener cela à mon rythme, étape par étape, mais l'essentiel c'est que j'atteigne mon objectif, c'est-à-dire le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, inshallah. On va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous y aider, parce que c'est par lui que tout se fera, et ensuite par notre volonté, mais d'abord par lui, donc il ne faut pas oublier cela aussi. Et puis je vais vous laisser la parole, inshallah, pour d'éventuelles questions ou remarques. Et puis tout à l'heure, inshallah, Abdelwahab nous fera une petite doua, fera une invocation avant de se quitter, inshallah. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. D'accord. La conscience, est là. Excusez-moi, je répète pour celles qui sont dans le fond, qui n'entendent pas forcément ce que vous dites. Donc la conscience et la raison font-elles partie de l'âme, si j'ai bien compris? Et donc est-ce qu'elles peuvent nous aider à lutter contre les passions de l'âme?
Barakallahu fik. La conscience et la raison qu'on appelle en arabe al-aql, hein. Al-aql, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande justement de l'utiliser, de le faire travailler. Il ne doit pas rester au chômage. Il doit travailler constamment. Il doit réfléchir, il doit méditer. Beaucoup de passages dans le Coran nous demandent justement de faire travailler cette raison pour qu'elle sache qu'elle doit justement mener ce travail important d'examen de conscience, de muhasaba, d'éducation, de purification. Donc la raison ne peut que nous aider si effectivement on comprend l'enjeu, comme l'a dit notre frère Abdelrahim, et si on le décide, hein, il faut bien le vouloir, mais ça demande bien entendu une connaissance, hein. Ça ne se fait pas comme ça. Comment éduquer l'âme, hein? Donc on a vu pourquoi éduquer l'âme, mais comment éduquer l'âme, hein? Là on n'a pas, je ne suis pas rentré dans les détails, hein, comment au quotidien, parce qu'en réalité c'est ce que nous est demandé. Comment au quotidien je dois éduquer mon âme, hein? J'ai donné juste quelques éléments, hein, mais au quotidien c'est si on peut le résumer, c'est obéir à Allah Azza wa Jal davantage et essayer de ne pas lui désobéir, hein? Et on a des, par les obligations, les prières, le jeûne, faire le bien, hein, en quelque sorte on doit s'efforcer de consolider notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce lien doit être fort. Et après avoir consolidé ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, on doit consolider le lien avec autrui et aussi avec soi-même. Hein, donc yani ça, inshallah ta'ala, ça se résume comme ça concernant le travail de la raison et de la conscience. Tant qu'on a de la conscience, on doit se rappeler bien entendu de l'importance de ce travail. Allahu a'lam.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est un moment important.
La question de notre frère Mustafa, hafidhahullah ta'ala, c'est en fait comment éviter le piège des habitudes, même si on a conscience, hein, on a assisté, j'allais dire, à une conférence, on a assisté à un cours où on a parlé de l'examen de conscience, de la purification, de l'éducation de l'âme. Est-ce que c'est suffisant justement pour dire, voilà, je vais aller travailler, je vais aller éduquer mon âme? Ah non. Donc et c'est vrai qu'on a pris des habitudes, hein, qui sont mauvaises, hein, et je pense que le plus important c'est que on doit prendre conscience que Allah Azza wa Jalla nous observe, hein, c'est parce que malheureusement dans notre pratique, dans nos prières, dans notre jeûne, dans notre façon d'être avec Allah et avec les gens, on fait cela par habitude. Combien de fois ne prions-nous pas sans même savoir à la fin de la prière ce qu'on a récité comme verset, le Coran, comme chapitre du Coran? Parce qu'on est en quelque sorte dans une rafla, une insouciance. Vous voyez, cette habitude, hein, cette habitude est mauvaise. On ne doit pas faire les choses comme cela. Mais il est vrai que seul, Rey Mustafa, c'est difficile. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a besoin de la bonne fréquentation. On a besoin de gens qui nous rappellent. On a besoin de travailler en groupe. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'islam a prescrit des adorations en groupe pour nous aider. Et on ne doit pas rester seul dans son coin et se dire « voilà, je vais réussir ». Mais c'est aussi lorsqu'on pratique maintenant la prière,
c'est un exercice spirituel. Vous voyez, lorsqu'on fait des gestes, des mouvements, des changements de position, lorsqu'on récite du Coran, est-ce qu'on a conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on fait? Et subhanallah, lorsqu'on étudie l'enseignement prophétique concernant, je vous donne à titre d'exemple, la prière, c'est un bel exemple, car c'est la première des choses sur laquelle on devra rendre des comptes yawm al-qiyamah. Awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. C'est la première des choses sur laquelle on devra rendre des comptes. Donc lorsque je fais une prière machinalement, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Arrahman Arrahim, Malik Yawmiddin, Yawmiddin, Dalin, Amin, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad. Et avoir conscience de ce que l'on dit, ça, pour changer les habitudes. On doit changer les habitudes. Allahu Akbar. Hein? Beaucoup de savants disent que le geste que l'on fait là, en levant les mains, raf'ul yadain, c'est on met ad-dunya derrière. Parce qu'on va entrer en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'adresser à Dieu. Allahu Akbar. Et Allah est plus grand que toute chose. Donc tout ce qui n'est pas Allah est petit. Le point de départ, il est là. Tout ce qui n'est pas Allah est petit. Si tu as conscience que Allah t'observe, Allah est grand et tout le reste est petit, ça va t'aider dans cet exercice, dans ce travail. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il faut demander l'aide d'Allah azza wa jal. On dit après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'ad ibn Jabal ainsi qu'à nous-mêmes de dire cette invocation après la prière. Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ou Allah, aide-moi à t'évoquer, à t'être reconnaissant et à parfaire ton adoration. On doit aussi demander l'aide d'Allah Azza wa Jal pour que on demande des comptes à notre âme. Chacun doit demander l'aide d'Allah Azza wa Jal à travers l'invocation. Hein. Et pour rester dans l'exemple de la salat, en récitant notamment Surat al-Fatiha, j'insiste sur Surat al-Fatiha parce que l'imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, dans son livre Madarij al-Salikin, Les Sentiers des Itinérants, qui est traduit, hein, qui est un peu complexe d'ailleurs dans la traduction, mais même en langue arabe il est assez difficile, hein, qui parle des étapes spirituelles, hein, il tourne autour, le début du livre tourne essentiellement autour du verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, hein, c'est de toi dont nous implorons le secours. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On veut adorer Allah, mais on a besoin de son aide. Wa iyyaka nasta'in. Donc méditer, inshallah ta'ala, le sens de Surat al-Fatiha. Allez, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais vous verrez que tous les versets de Surat al-Fatiha yani, s'enchaînent et ont un lien entre eux. Hein, on fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, on demande de l'aider et on fait cette invocation ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Donc pour résumer, en fait, il faut casser les habitudes dans l'adoration n'ont pas de place, hein, on doit adorer Allah azza wa jalla ala ilm, en passant justement vers ce degré de l'excellence, an ta'bud Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, en sachant qu'Allah Azza wa Jal nous observe, et donc dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, en s'aidant de ses frères et de ses sœurs, on va, bi'idhnillah Azza wa Jal, réussir cet exercice, sachant que on tombera certainement, vu notre faiblesse, notamment dans notre contexte, dans l'oubli, dans l'insouciance. Que faire? At-tawbah, le repentir et retravailler encore. Hein, ne pas dire voilà, j'ai pas réussi l'examen, j'ai pas eu mon bac, donc j'arrête là, je ne retente pas l'année prochaine. Je retente, inshallah ta'ala, je vais travailler, je vais faire plus d'exercices, je vais m'investir pleinement, je vais faire du soutien scolaire, je vais faire appel à des amis, etc., etc., pour réussir l'exercice, bi'inillahi azza wa jalla. Wallahu ta'ala ala wa ala. Est-ce que c'est le meilleur des moyens justement de faire du dhikr? D'ailleurs, je pense que c'est arrivé après la prière, je crois. Ouais, parce que j'ai cité ce point qui est important, bien entendu, juste avant la prière, que justement le cœur a besoin de ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cœur,
lorsqu'il entend la parole d'Allah et lorsqu'il suit l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça pèse. Parce que le cœur est tel la maman qui saura reconnaître son enfant, hein, ou l'enfant, afwan, l'enfant qui saura reconnaître sa maman parmi 30 femmes. Hein, très certainement, un enfant de 1 an, hein, quand même. Vous mettez 30 femmes, il saura reconnaître son enfant. C'est inné. C'est comme ça. Allah Azza wa Jal l'a voulu ainsi. Cette proximité de l'enfant par rapport à sa maman ou à son papa, mais surtout la maman. De même, le cœur, lorsqu'il reconnaît la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il la reconnaîtra. Parce que c'est la fitra. La prédisposition naturelle, c'est que le cœur connaît la parole d'Allah, il a besoin de cette nourriture, et donc lorsqu'il la ressent, lorsqu'il la capte, il est apaisé. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que une fois j'ai demandé à une sœur qui embrassait l'islam, je lui dis quel a été le déclic, quelle a été, j'allais dire, la chose qui a fait que tu t'es intéressé à l'islam. Elle a dit, je suis entré à la mosquée, fil masjid, et j'ai entendu la récitation du Coran, la récitation de la parole d'Allah Azza wa Jal, et je me suis mis à pleurer sans que je ne sache pourquoi. Hakada, je ne comprenais pas un seul mot de la langue arabe, mais rien qu'à l'écoute du Coran, les larmes ont coulé. Pourquoi ? C'est normal. Le cœur, lui, a connu, a compris la langue, a compris la parole d'Allah Azza wa Jal, de ce dhikr. Il s'est apaisé. Et donc, c'est pour cela, d'ailleurs, que Allah, comme nous rappelait notre frère, dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul quloub ». Donc, il y a, bien entendu, un lien entre le cœur et l'âme. Hein, ce cœur, hein, pour vous citer les degrés du cœur, « Al-qalbu al-mayyit wal-iyadu billah », le cœur qui est mort, qui ne connaît pas Allah, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Alladhi yadkuru rabbahu alladhi la yadkuru kal-hayy wal-mayyit ». Celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas sont comparables aux morts et aux vivants. Donc, « Al-qalbu al-mayyit », le cœur mort, dur, plus dur même que la roche, que la pierre. Ensuite, il y a le cœur malade, al-qalb al-marid, qui est dans un état instable entre le bien et le mal, entre le rappel et l'oubli. Hein, il est dans un état instable, c'est le malade. Hein, il est en malade, un état intermédiaire. Il va, bien entendu, vers le cœur saint, al-qalb al-salim, que a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien, ni argent, ni enfant ne seront d'aucune utilité, إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, sauf celui qui revient avec Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Donc il y a un lien, bien entendu, important entre le travail sur le cœur et le travail à mener sur travail spirituel sur l'âme. Wallahu ta'ala ala wa'ala.
Je crois qu'on va s'arrêter là dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres remarques. Donc je vais tout d'abord remercier notre frère Abdelouhab d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir donc exposé ce thème très intéressant. Je vous remercie tous et toutes également de votre présence et je vais laisser Abdelouhab conclure avec des deux inshallah. Et on vous, comme d'habitude, hein, le site internet, vous connaissez. Donc connectez-vous, Inch'Allah, et tenez-vous au courant des activités qui ont lieu dans cette magnifique mosquée avec des gens formidables. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, et venez nous rendre visite dès que vous le pouvez, Inch'Allah. Wa barakallahu fikoum, wa salamu alaykoum wa rahmatoullah.
Bismillah wa salatu wa salamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Donc si j'ai dit du bien, ça vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. قلت خيرا فمن الله عز وجل. Si j'ai du mal ou des choses qui ne sont pas conformes à ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala, famin nafsi wa min ash-shaytan, ça ne vient que de ma propre personne, de mon nafs et de shaytan, bien entendu, qui a aidé un nafs dans ce sens, et je demande à Allah عز وجل de nous préserver de cela. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد على كل شيء تحب أن تحمد عليه بكل شيء تحب أن تحمد به لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بعلمك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا أن تهدي قلوبنا أن تهدي قلوبنا وتستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتحقق مرادنا وتجعل التقى زادنا اللهم اجعل التقى زادنا يا رب العالمين وأن تجعل التقى زادنا وأن تصلح أزواجنا وأولادنا يا رب العالمين وترحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته يا رب العالمين هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين اللهم اصلح أنفسنا يا رب العالمين اللهم اصلح أنفسنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ودود يا ودود اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى